Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
En premier invité des auditeurs ont la parole, Laurent Eckey, le directeur général de l'Observatoire Mobilité et Prospective au sein de l'Alliance Nationale des Experts en Automobile. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On parle du diesel, de son avenir, évidemment, parce que depuis samedi, les véhicules qui sont porteurs d'une vignette critère numéro 5 ne peuvent plus circuler dans Paris les jours de semaine. Et il s'agit donc des voitures diesel d'avant le 1er janvier 2020. D'autres villes, hein, une trentaine ont d'ailleurs l'occasion et l'intention de mettre en place des mesures de restriction dans les prochains mois. Peut-être certaines comme Grenoble ont d'ailleurs déjà commencé. Ces voitures interdites dans Paris, elles sont combien ? Combien de voitures sont désormais indésirables dans la capitale ?
Alors, c'est difficile d'avoir un chiffre précis. Voilà, et si vous le trouvez, je suis preneur.
On a cherché, mais, oui.
Par contre, c'est important de dire que les diesels de plus de 4 ans, c'est à peu près plus de 18 millions de véhicules sur le parc. Il faut préciser aussi que les ménages parisiens ne sont motorisés qu'à 40%, contrairement à plus de 90% dans le reste de la France. Donc, ceux qui vont être impactés, c'est surtout les franciliens, c'est-à-dire ceux qui viennent travailler à Paris. Donc, on peut considérer qu'on a plusieurs millions de véhicules qui sont de toute façon concernés. Et puis, considérons que nous avons un parc roulant qui est composé de véhicules âgés d'une moyenne de 9 ans. Ouais. Ça veut dire qu'on a énormément de vieux véhicules. Et avant, on avait, par information, dans les années 95, la moyenne d'âge était de 4 ans et demi. Donc vous voyez que notre parc vieillit, on
bien
fait
vieilli,
durer nos voitures, on les entretient mieux, ce qui fait qu'on a un nombre d'anciens véhicules qui sont concernés par les mesures relativement important, ça c'est certain.
Est-ce que vous pensez que l'objectif affiché de la mairie de Paris du zéro diesel à l'horizon 2020-2025, c'est possible ou pas ?
Alors, c'est un objectif de politique. Moi, c'est intéressant d'observer ce qu'ils font. Malheureusement, les politiques sont toujours dans la mesure et qu'ils n'anticipent pas. Moi, j'aime bien qu'il y ait des solutions alternatives avant de prendre des décisions. Alors, est-ce que c'est jouable ? Ils vont nous dire que oui. Maintenant, est-ce que le diesel va disparaître ? Personne n'y croit. On aura certainement un rééquilibrage de notre parc. On a certainement trop dieselisé un parc. Le diesel a effectivement des inconvénients, mais il a aussi des qualités, des avantages, ce qui fait qu'aujourd'hui, dire que le diesel disparaîtra en France, non, comme il ne disparaîtra pas dans tous les autres pays. Par contre, est-ce que dans une ville comme Paris, on peut dire que ça va disparaître ? C'est un enjeu extrêmement ambitieux. Moi, j'y crois difficilement.
Parce que les chiffres, quand même, sont là. Ils ont d'ailleurs été présentés ce matin, les chiffres. C'est match nul aujourd'hui. 48% de moteurs essence, 48% de moteurs diesel. Reste
4%. Là, on parle du niveau national. Hein.
On sort de Paris. Les ventes au niveau national. C'est moitié-moitié avec une toute petite part de véhicules électriques. La tendance est donc à la baisse, c'est vrai, assez nettement, moins 4%. Mais le volume des ventes de diesel reste très important. Elles vont bien rouler, ces voitures. Dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, elles vont rouler, ces voitures.
Le renouvellement d'un parc automobile, c'est 15 à 20 ans. Et il faut aussi préciser que les particuliers sont sur un marché du véhicule d'occasion. Quand vous parlez de vente de véhicules neufs, qui sont les chiffres donnés par le comité des constructeurs français d'automobiles, c'est 2 millions de ventes par an, dont 50% sont assurées par les entreprises. Donc, on a 7 millions à peu près d'immatriculations nouvelles par an, ce qui veut dire qu'on a 5 millions d'immatriculations de véhicules anciens qui correspondent au marché des particuliers. Donc, ce qui veut dire que quand on a un parc qui vieillit, ce parc, effectivement, s'échange entre particuliers et va nécessiter 15 à 20 ans de renouvellement. Donc, les véhicules diesel, on va en avoir encore pendant un certain temps. Quant aux autres pays européens, sur les ventes, on observe, par exemple, en Italie, en Allemagne, 50% de ventes de véhicules diesel. Une accélération un peu en Grande-Bretagne. C'est vrai qu'on a une polémique très française. On a aussi une industrie diesel française. Donc, les spécialistes nous donnent un atterrissage en 2022-2025 de l'ordre de 30 à 40% de ventes de véhicules diesel qui permettra ce rééquilibrage. Mais encore une fois, le diesel, quand on roule beaucoup, et particulièrement dans les entreprises, c'est une motorisation qui est certainement adaptée.
Et ça reste rentable. On va poursuivre notre conversation dans un instant avec les auditeurs d'RTL. On a Jean-Pierre et Philippe qui ont fait le 32-10. À tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Et on parle avec vous du diesel dont les ventes cafouillent un petit peu en ce moment. Nous sommes avec Laurent Eckey, directeur général de l'Observatoire Mobilité et Prospective au sein de l'Alliance des Experts en Automobile. Et nous avons donc Jean-Pierre qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Christelle, bonjour Vincent.
Alors si j'ai bien compris Jean-Pierre, vous entre le diesel et essence, vous avez choisi de ne pas choisir.
Ben, c'est-à-dire que c'est une expérience, c'est du concret, hein, c'est pas, je n'invente rien.
Oui.
J'avais il y a 3 ans une voiture allemande, un 6 cylindres essence qui consommait à peu près 10 litres en moyenne d'essence, et une petite Renault qui consommait 7 litres 5. J'ai changé, j'ai une autre allemande qui est en diesel, un 6 cylindres diesel, qui fait 258 chevaux.
Ah oui.
Ah ben oui.
Comme on dit, ça envoie, mais ça doit consommer bien aussi. Hein.
Mais non, justement, parce que quand je fais de l'autoroute et quand je fais de la petite route départementale nationale, je roule autour de chez moi, je fais 6 litres 5. Et j'ai une petite Peugeot, toute petite, qui a un 3 cylindres, un nouveau modèle, qui fait la même consommation. Donc, je vois bien la différence. Au niveau du prix de revient du kilomètre, c'est totalement différent.
Non, mais vous avez une essence et une diesel, Jean-Pierre.
Oui, exactement.
C'est ça. Et vous dites, bon,
Avec ma voiture puissante, je consomme autant que ma petite voiture.
Oui, c'est ça.
Donc, au niveau
c'est un diesel récent.
Oui, oui, il a 2 ans et demi, là. C'est un 6 cylindres diesel. Donc, je ne vais pas vous donner les données techniques avec biturbo, tout ça.
Non, ça fait beaucoup.
Non, nous sommes des profanes.
Mais c'est Laurent, une voiture qui, a priori, pollue peu.
Bien sûr.
On a parlé des avantages et monsieur souligne un des avantages du diesel, c'est-à-dire son meilleur rendement qu'un moteur essence. Si on consomme 20 à 25% de carburant en moins, ça va s'en ressentir bien évidemment sur le budget carburant, plus un prix du diesel, même s'il est rééquilibré aujourd'hui, qui est encore un peu effectivement inférieur, donc c'est intéressant pour le budget. Et qui veut dire moins de consommation dit aussi une chose fondamentale, c'est moins d'émissions de CO2.
Exactement.
Donc, dans le débat de la pollution, on a 2 axes. On a le réchauffement climatique, le CO2, c'était très en avant il y a quelques années.
Maintenant, et les particules fines pour les diesels.
Et les particules fines et les NOx pour les diesels. Alors, donc, il y a un avantage, il y a aussi un avantage dans l'agrément de conduite. Mmh. Et pour le véhicule décrit par monsieur, qui est un gros véhicule, les moteurs diesel sont performants. Et surtout, les nouveaux moteurs diesel. Mmh. Maintenant, les efforts ont été faits par les constructeurs, qui ont mis des lignes de dépollution extrêmement importantes. Ça s'en ressent aussi sur le coût économique du moteur, malgré tout, et donc du prix du véhicule. Mmh. C'est pas neutre, mais les diesels récents polluent moins en termes de particules. Et il y a aussi de grandes avancées sur les NOx. Mmh. Par contre, les moteurs essence, à force de les améliorer aujourd'hui, on a l'effet inverse. On constate l'émission de particules sur les moteurs essence et de NOx.
Est-ce à dire que les mesures qui sont prises aujourd'hui à Paris et qui vont être prises dans d'autres villes ne vont concerner que les diesels, on va dire, qui ont
ancienne génération
et ne concerneront jamais les nouveaux diesels, les récents, ceux qui sont critères 1 et critères 2 aujourd'hui.
Il n'y a pas de raison. Normalement, non. Alors, sauf à ce qu'on sévérise toujours plus les normes, mais à force de sévériser, on va arriver quand même dans une limite à l'exercice. Et ça, il faut effectivement que les pouvoirs publics ne fassent pas n'importe quoi.
Jean-Pierre, vous avez l'impression qu'on vous culpabilise avec votre diesel ?
Non, parce que moi j'ai fait un choix, parce que je vais vous dire autre chose. Monsieur disait que c'était politique. Si j'avais pris la même voiture que j'ai avec un moteur essence, je payais pratiquement 3000 euros de malus. Avec mon diesel, mon 6 cylindres diesel, tout ça, je paye à peine 500 euros.
Jean-Pierre, je vais vous présenter quelqu'un, il s'appelle Philippe, qui nous appelle du Nord, et qui lui aussi avait un gros diesel, et qui a changé. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Vincent, bonjour Christelle.
Bonjour, bienvenue. Racontez-nous.
Je disposais d'un véhicule français de 7 places qui correspondait à des besoins de l'époque. Véhicule qui arrivait à 10 ans en 2016 et je me suis donc interrogé sur le changement du véhicule, puisque c'est un véhicule qui commençait à coûter cher en entretien.
Mais c'était une voiture, hein, pas...
Non, oui, c'est une voiture, un Peugeot 807 pour ne pas le citer.
Ah ben voilà.
Donc je me suis questionné avec mon épouse sur l'achat d'un petit véhicule secondaire. Et puis nous avons vu une publicité sur les voitures électriques. Nous sommes rendus au garage, nous avons fait l'essai. Et le premier essai a été favorable. Il nous a franchement convaincus de l'utiliser de ce type de véhicule.
D'accord.
Donc je me suis donc séparé de mon véhicule 7 places. Il faut reconnaître qu'à l'époque, il y avait une reprise et de l'État et du garage qui était conséquente, hein, puisqu'elle avoisinait les 10 000 euros.
Ça a dû vous aider à prendre une décision quand même.
Aussi, bien sûr. Mais le choix était écologique, mais il a été aussi économique, bien sûr. Hein,
mais quel véhicule électrique vous avez trouvé avec cette place ?
Nous avons craqué pour la Renault Zoé, donc beaucoup plus petite.
Oui, beaucoup plus petite, c'est ça, parce qu'on cherchait, on ne trouvait pas avec Vincent.
Il faut reconnaître que c'est quand même un second véhicule. Il reste à mon épouse un véhicule principal en cas de long déplacement.
D'accord.
Mais pour tout ce qui est local, nous utilisons notre véhicule électrique.
Et sans aucun regret.
Sans aucun regret. C'est un confort de conduite extraordinaire. Ouais. Les métropoles, villes et grandes surfaces développent de plus en plus de bornes de recharge qui facilitent quand même ce petit inconvénient. Le regret aujourd'hui, c'est l'autonomie du véhicule. Ouais. La version que j'ai me permet d'avoir une autonomie de 150-160 km. Ouais. La nouvelle version de Renault Zoé passe à 400 km. Ouais. Donc c'est quand même très avantageux.
Oui, quoi. Mais ça reste quand même, Laurent Hecquet, un deuxième véhicule.
Oui, en fait, le choix de monsieur est extrêmement intéressant. Pour les familles, pour les ménages qui en ont la possibilité, c'est un choix. Alors, il indique deux choses. Il est passé d'un monospace à un petit véhicule. C'est donc qu'il n'a plus le besoin familial d'avoir un grand véhicule. Ses enfants ont dû grandir. Ils sont partis, très certainement. Le deuxième point, c'est qu'il a les moyens, effectivement, de bénéficier de cette aide de reprise. Un véhicule Zoé, c'est à peu près 20 000 euros. Donc, lorsque vous touchez 10 000 euros de prime, il faut encore mettre 10 000 euros. Et c'est vrai que le véhicule électrique est extrêmement intéressant. C'est extrêmement agréable à conduire. C'est un deuxième véhicule. L'ensemble des ménages ne font pas le pas. Mais par contre, ce qui pose problème en France, c'est que les propriétaires des plus vieux véhicules diesel sont bien souvent des 3e, 4e, voire 5e propriétaires qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf.
Alors justement,
ne correspond pas à tout ce qu'il faudrait proposer pour renouveler rapidement le parc.
Mais même un véhicule d'occasion, est-ce qu'on pourrait pas les inciter, les aider à acheter un véhicule d'occasion, certes, mais d'occasion propre, parce que ça existe.
Hein. Voilà, moi c'était une des propositions que j'ai portées en 2013. Donc Paris ne s'est pas fait en un jour. Il faut toujours revenir avec cette proposition. C'est de dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, les particuliers achètent entre particuliers majoritairement. Donc l'idée, c'est de se dire que si on met une prime à la reconversion, là, j'en appelle à Monsieur Macron, président de la République, mais quand il était candidat, il a parlé de cette incitation, en tout cas de ne pas se tromper. Il faut le mettre entre particuliers à particuliers et pas seulement pour un véhicule acheté chez les professionnels. Pourquoi ? Parce que les particuliers achètent aux particuliers et si on ne le fait pas, eh bien, on va créer les mêmes obstacles que l'on a créés anciennement avec les primes à la casse qui n'ont jamais fonctionné. Ce qui veut dire aujourd'hui que l'on peut vérifier effectivement qu'un particulier achète un véhicule de normes plus récentes et vérifier surtout que son véhicule a été mis en destruction
à la casse.
Et on peut appeler par rapport à ça une profession notamment parce qu'on me disait mais comment fait-on ? Que sont les experts en automobile qu'on connaît mal mais qui sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur, tiers de confiance, indépendants de la filière économique et qui peuvent assurer ce rôle pour être l'accompagnateur des deux parties.
On va marquer une courte pause et dans un instant, on sera avec Chantal sur RTL. Chantal, elle habite au PEC, c'est près de Versailles, hein, dans les Yvelines. Et elle voudrait bien savoir comment elle va aller dans Paris parce que ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'elle a acheté son diesel. A tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Vincent Parisot.
Avec Laurent Hecquet, le directeur général de l'Observatoire Mobilité Prospective à l'Alliance des experts en automobile. On parle de l'avenir du diesel, évidemment. Et on est donc avec Chantal qui est dans les Yvelines. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Je me demandais si vous alliez pouvoir aller encore à Paris en voiture dans les prochaines années parce que je disais que vous avez acheté votre diesel il y a 10 ans.
Voilà.
Alors aujourd'hui, ça passe encore ?
Oui, parce que j'ai la vignette numéro 3,
voilà.
Mais probablement, puisque j'ai entendu que ça n'irait que jusqu'au numéro 2, probablement, je ne pourrais plus aller à Paris. Cela dit, bon, c'est pas le plus gros de mes problèmes. Je trouve que simplement, je voulais vous faire part de mon étonnement, parce que c'est la variabilité des décisions politiques. Parce qu'il y a une dizaine d'années, on nous incitait à acheter les diesels.
Ah ben oui.
Et l'État donnait des primes, l'essence était moins chère, etc. Alors, qu'est-ce qui est sous-jacent à cela ? On dit que c'est pour l'écologie, mais j'entends bien que maintenant, enfin, c'est conforté par mon voisin qui est ingénieur chez Peugeot. Ouais. Et
La santé que l'écologie, hein, puisque le problème des particules fines...
Oui. Mais vous venez d'expliquer que les nouvelles voitures diesel consomment moins, donc proportionnellement, elles polluent moins, que les filtres sont beaucoup plus puissants, que l'essence, elle consomme plus, donc elle pollue plus. Et donc, tout ça, ça ne tient pas la route, scientifiquement.
Alors, Laurent Hecquet, en fait, ce qui tient la route, c'est de dire que ce sont les vieux diesels qui posent problème, c'est ça, hein ?
Oui, mais j'aime bien ce témoignage, parce qu'il est le reflet d'une incompréhension sociétale. Comment se fait-il que ce qui était vertueux hier ne l'est plus aujourd'hui? Les gens ont du mal à comprendre et à se repérer. Les politiques doivent comprendre ça. Quand on prend une mesure, elle est complexe à comprendre et complexe à changer. Et c'est un changement de culture et ça prend du temps. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure d'anticipation. Quand on prend une mesure, c'est d'accompagner les Français. Et effectivement, on va dire aujourd'hui que les nouveaux diesels sont extrêmement vertueux parce que les constructeurs ont été amenés à faire énormément d'efforts. Après, on a eu un peu tous les témoignages aujourd'hui. C'est de se dire aujourd'hui, quel est le segment du véhicule qui correspond à mes besoins. Si effectivement j'ai un vieux véhicule, comme Madame le dit, elle peut encore venir à Paris, mais il y a bien un moment où elle ne pourra plus venir. Et certainement que dans des pics de pollution, la mairie peut être amenée aussi à prendre des décisions plus drastiques en bloquant encore plus de véhicules. Donc ce qui veut dire que ce véhicule, malgré tout, les gens sont perdus parce qu'ils se disent « j'ai perdu toute la valeur, j'ai perdu mon patrimoine ». N'oublions pas qu'un véhicule fait partie d'une partie importante du patrimoine des ménages. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'on peut malgré tout anticiper cela. Ce véhicule peut avoir une valeur, ne serait-ce qu'à la destruction, parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'on est dans une économie circulaire. On favorise par exemple les pièces de réemploi dans la réparation. Ce qui veut dire que lorsqu'on met un véhicule à la casse, il a encore une valeur. Ou alors on peut aussi revendre ce véhicule dans d'autres régions de France, moins impactées par les réglementations, où des personnes, effectivement, peuvent être intéressées par ce véhicule.
Mais ça veut dire que le prix des diesels à la revente va baisser ou pas?
Ben, forcément, il y a un rééquilibrage du marché de l'occasion.
Tous ceux qui ont un diesel se posent cette question-là.
Voilà. Oui, et j'ai, d'ailleurs, nous avons entrepris une démarche vers la mairie de Paris, le cabinet de M. Nadjovski, il trouvait la mesure intéressante d'accompagner tous les franciliens qui sont aujourd'hui impactés et qui considèrent avoir subi une perte importante, de leur dire, qu'est-ce qu'ils font avec leur vieux véhicule? Parce que le marché de l'occasion, effectivement, va changer. Et la valeur patrimoniale qu'ils ont pu avoir sur leur véhicule a chuté totalement, voire même disparu. Donc il faut les accompagner au mieux, de façon à ce qu'ils aient le sentiment de ne pas perdre trop et surtout d'avoir un accompagnement pour prendre les bonnes décisions. Les gens, aujourd'hui, sont perdus.
Vous la gardez, votre diesel, Chantal, ou vous la changez?
Oui, pour l'instant, oui. Mais je suis prête à perdre une partie de mon patrimoine. Moi, ce qui me choque, c'est l'incohérence.
C'est de nous avoir dit pendant des années, roulez diesel, et aujourd'hui, de nous dire, oulala, jetez votre diesel, finalement.
On est passé du CO2 à la particule et à la santé publique. Mais si on écoutait la COP21 ou la COP22, il faudrait que des motorisations diesel, puisque ce sont les plus vertueuses. Mais ce n'est pas dans l'air du temps, apparemment.
Allez, on va poursuivre cette conversation avec un mécanicien auto, Jean-Philippe, qui est à La Rochelle. Bonjour Jean-Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe, bienvenue.
Alors, pour vous, s'en prendre au diesel, c'est pas la bonne question, en fait.
Non, je suis un peu effaré par tout ce que j'entends.
Ah, donc, allez-y.
Il y a un truc tout simple, un taux de compression. C'est-à-dire, le taux de compression, c'est que le volume comprimé dans un cylindre, il est de 22 sur un diesel, il est de 10 sur l'essence.
Oui.
Bon, déjà là, on s'aperçoit que le moteur est beaucoup plus performant et peut avoir des grosses performances à bas régime.
Oui, en diesel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment le couple.
Voilà. Le couple, c'est ça, la voiture.
Il existe aujourd'hui des véhicules qui roulent encore, moi-même j'en ai un, qui est de 99, qui consomme 4,5 litres au 100 en respectant la limitation de vitesse. Ouais. J'ajoute dedans un petit additif qui me permet d'augmenter mon indice de cétane, c'est-à-dire d'explosion. Et quand je passe au contrôle technique, je suis en dessous de la norme constructeur, en dessous de la norme réglementaire. Mmh. Alors que mon véhicule, j'ai enlevé le filtre.
Donc le problème, c'est le carburant, c'est pas la voiture.
Et puis, je veux juste signaler une chose, c'est que le diesel, à la base, il a quand même été fait pour fonctionner avec des huiles. Donc pourquoi aujourd'hui on a des problèmes avec soi-disant l'huile de colza, enfin les huiles de palme et toutes ces choses-là? Ça a été démontré plus d'une fois, au niveau de l'agriculture, au niveau des transports, que de l'huile qui est utilisée à la place du gasoil fonctionne tout aussi bien. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2005, on fait des véhicules qui ne peuvent fonctionner qu'au diesel, parce qu'il faut faire des modifications, alors que ces vieux véhicules-là pourraient très bien fonctionner avec, on va dire, entre guillemets, un gasoil bio.
J'ai une question, monsieur. Vous avez été coupé au moment où vous dites « j'ai retiré le filtre ». Quel filtre vous avez retiré?
J'ai retiré le catalyseur et la vanne EGR, qui à l'époque était une obligation pour que les vieux moteurs soient passés aux normes Euro 4.
Oui, alors moi ma remarque, effectivement vous êtes peut-être plus spécialiste, mais si on met des lignes de dépollution, on met une filtration pour éviter effectivement la pollution, si vous la contournez, vous allez rendre votre véhicule plus polluant. Et lorsque vous parlez du contrôle technique, à ma connaissance aujourd'hui, le contrôle technique doit être renforcé en mesure des émissions polluantes, parce qu'aujourd'hui il n'y a rien, c'est l'opacité des des fumées, et l'opacité des fumées ne donne aucune information sur la, effectivement, notamment les émissions de NOx. Donc moi, je déconseille, si vous voulez me permettre, de contourner, de retirer, de défaper. Il y a un gros problème de défapage et de contournement des vannes EGR.
Parce que plus polluant.
On retire les normes du véhicule et surtout, on le met en... C'est un risque, parce que monsieur, qui est un spécialiste, va savoir qu'effectivement, on va dérégler le moteur, puisque un moteur, c'est un équilibre entre l'entrée d'air et la sortie d'air, et si on dérègle ça, eh bien, on risque d'avoir des problèmes dans le fonctionnement optimum du moteur, si vous en êtes d'accord.
Bah écoutez, en tout cas, j'espère qu'il en est d'accord, parce que de toute façon, pour l'instant, la séquence s'arrête ici. On vous remercie beaucoup, Laurent Eyquet. On salue Jean-François qui nous appelait. Jean-François, il est chef d'entreprise. Il a des salariés. Il nous explique que ses salariés viennent tous travailler avec des voitures diesel et qu'il est prêt à payer les amendes de ses salariés parce qu'il préfère ça plutôt qu'ils ne viennent pas aujourd'hui au travail. Il pose la question des conséquences économiques aussi de ces mesures.
Elles sont nombreuses, y compris chez nos constructeurs français qui, de toute façon, font des efforts, mais devront aussi avoir un taux moyen d'émission sur le véhicule produit qui doit être aux alentours de 95 grammes d'ici 2020, ce qui veut dire que les constructeurs considèrent qu'ils ont encore besoin de la motorisation diesel pour arriver à atteindre cette moyenne. Donc c'est important aussi pour notre industrie automobile.
On rappelle qu'il n'y aura pas de zéro diesel, non, jamais, c'est un fantasme.
En tout cas, on n'y croit pas. L'hypothèse des politiques, c'est peut-être une utopie.
Voilà. Merci beaucoup Laurent Eyquet, merci d'avoir dialogué avec nos auditeurs. Merci à
vous. Allez, on marque une courte pause et puis dans un instant, il y a toujours dans notre volonté de peut-être moins polluer. On va s'intéresser au circuit court. Il faut manger des produits qui viennent près de chez nous. À tout de suite.